On va faire une conférence un peu spéciale aujourd'hui. On a été inspiré par le. C'est dommage qu'il ne soit pas là. La remarque de Leopoldo. Souvenez-vous quand vous avez parlé de. D'abord, notamment en 2017. Je le fait que les Grecs ne parlaient pas bien. Il disait naissance et destruction, là où il fallait dire composition et dissociation. Donc votre camarade a rappelé l'existence d'un fragment d'Empédocle qui pouvait être considéré comme parallèle à cette déclaration d'Anaxagore et témoignant d'une relation différente au langage. Alors, je vais garder un tout petit peu le fragment. Qui en effet est très intéressant et qui, regardant, m'est apparu une foule de problèmes, un certain nombre de problèmes, qui m'ont paru suffisamment intéressants pour que on les discute ensemble. Avant de passer à ce que je voulais vous dire, sur lequel je reviendrai aussi, peut-être dans cette séance, peut-être après. Sur l'atomisme de Leucippe et de Démocrite. Et ce que je voudrais faire un tout petit peu, ça m'est apparu comme une bonne occasion de pratiquer avec vous ce qu'on n'a pas fait jusqu'à présent, vraiment, qui est un peu de lecture, comment dire, directe, attentive des sources auxquelles nous devons ces citations des philosophes présocratiques et de problèmes interprétatifs qui se posent pour évaluer l'information qui nous est donnée à travers ces sources. Alors, je vais commencer par donc, ce que je vous ai distribué, vous voyez rapidement, c'est... Merci. Ce que je vous ai distribué, donc sur la première feuille, vous trouvez deux fragments d'Empédocle, je vous ai donné le texte grec aussi, pour ceux d'entre vous qui... pouvez le lire, le repérer. Le fragment, donc deux fragments d'Empédocle qui sont, que j'ai tiré de l'édition de Jean Bollac, dont c'est la numérotation également, donc 53 et 56 sont le numéro de Jean Bollac, et vous avez entre parenthèses le numéro correspondant de l'édition d'Ilstrand, qui est classique sur lequel vous le repérez dans d'autres éditions, donc c'est 53 Bollac égale B8, fragment B8 d'Ilstrand. Donc si vous utilisez d'autres éditions, vous le retrouverez à travers cette numérotation plutôt qu'à travers l'autre. Ensuite, je vous ai donné un texte d'Aristote, un texte de Plutarque, un texte d'un traité anonyme qu'on appelle, sur la deuxième page, le DMXG. DMXG est une... DMXG est une abréviation pour un traité anonyme qui fait partie du corpus aristotélicien, qui est transmis avec les œuvres d'Aristote, dont on ne pense plus qu'il est d'Aristote. DMXG, c'est l'abréviation de Demerisso, Xénophanie et Gordia. C'est un traité anonyme qui contient à la fois un résumé et une critique des doctrines de Mélissus, Xénophane et Gorgias. Et c'est un texte dont je voulais vous parler de toute façon parce que, je ne vais pas vous en parler aujourd'hui sans doute, il contient dans sa troisième partie une version. Une des deux versions conservées du traité de Gorgias sur le non-être. Donc c'est à travers le traité DMXG qu'on connaît le traité de Gorgias sur le non-être, dont je voulais vous dire un mot, je dirais peut-être un mot tout à fait à la fin. Mais en tous les cas, ce traité DMXG comprend donc trois parties. La première est sur Mélissus et la partie sur Mélissus, dont je vous ai donné un extrait, le paragraphe 16, contient donc une référence à Empédocle qui nous intéresse, et puis finalement un extrait de quelque chose qu'on appelle, d'un auteur qu'on appelle Aetius. Et Aetius est un. Pas vraiment un auteur, c'est un manuel doxographique, c'est un manuel d'opinion extrêmement important parce que c'est un manuel qui nous donne, qui nous renseigne sur, de manière un peu systématique, sur toute une série de sujets, qui nous donne l'opinion des philosophes, par des philosophes anciens sur toute une série de sujets qui est construit comme une série de chapitres avec des lemmes différents. Manuel d'Aetius, vous en trouvez la version la plus importante. Alors, je vous explique ça, c'est un peu de cuisine philologique. On a deux témoins principaux. Aetius est un nom. On ne sait même pas qui c'est, on ne sait même pas quand il a vécu. C'est un nom qui a été donné par Dils, le même Dils qui s'est occupé des éditions des présocratiques, à un manuel dont il a posé l'existence à partir de la confrontation de listes d'opinions doxographiques que l'on trouve d'une part dans un auteur chrétien qu'on appelle Stobé, qui s'appelle Stobé, exactement, Jean Stobé, un auteur chrétien qui avait composé une anthologie, c'était une anthologie pour des fins éducationnelles, et qui cite des extraits d'auteurs anciens sous des titres de chapitres, réunis thématiquement, sur la nature, sur les dieux, sur le plaisir, sur le bien, sur etc. Et à chacun de ces chapitres, à partir de chacun de ces chapitres, il cite un certain nombre d'extraits tirés d'auteurs les plus divers, beaucoup de philosophes, mais aussi des auteurs littéraires. Et c'est à Stobé que l'on voit ces cinq volumes, c'est assez important, et on voit un certain nombre de citations qu'on ne connaîtrait pas par ailleurs, d'auteurs anciens. Ça, c'est pas traduit, ça nous dit qu'en grec. Donc, Stobé présente des listes d'opinions philosophiques dans certains de ses chapitres. Et puis, on a ce qu'on appelle les opinions des philosophes de quelqu'un qu'on appelle Plutarque, mais qui n'est pas le vrai Plutarque, qu'on appelle pseudo-Plutarque. Et donc, le pseudo-Plutarque a. On a conservé de lui un recueil d'opinions, les Placita Philosophorum, c'est-à-dire c'est le nom de latin de opinion des philosophes, opinion des philosophes, selon le même principe, ce ne sont pas des citations, mais des résumés des positions des philosophes. Et c'est une chose très importante pour la connaissance des opinions de certains philosophes sur certains sujets qu'on n'aurait pas savoir. À partir de la confrontation ces deux anthologies ou doxographies qui se recoupent partiellement en certaines de leurs parties, Diels a reconstruit un original perdu qu'il a appelé Aesius, et on parle couramment du manuel d'Aesius. Et ce manuel d'Aesius, il est également de consultation difficile parce qu'il n'est édité que dans une édition gréco-grecque par Diels, mais vous avez très facilement accès au Placuta Philosophorum, aux opinions des philosophes, du pseudo Plutarque, parce que c'est édité dans la collection Budé, dans la collection des unités de France, sous le titre de Plutarque, opinions des philosophes. Vous avez Plutarque, opinions des philosophes. Donc, et c'est...
C'est pas facile, hein.
Une possibilité, c'est que vous alliez là-bas. Bon. Voilà. Et donc, voilà. Et puis, je vous ai reproduit un bout de la métaphysique d'Aristote. Sur la première page, la deuxième, le chapitre Delta 4. Et alors tous ces textes, Aristote, Plutarque, le DMXG et Aesius, représentent les sources principales des deux fragments d'Empédocle que je vous ai donné au début. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'il représente des interprétations de ce fragment d'Empédocle qui, en partie, divergent et qui sont très intéressantes et sur lesquelles nous devons nous-mêmes nous faire une opinion pour savoir ce qu'Empédocle disait. De manière générale, c'est une illusion de penser qu'on puisse avoir accès aux fragments des philosophes présocratiques sans passer par les sources qui les citent, qui les utilisent, qui les interprètent, qui les commentent souvent et qui guident l'interprétation. Même si nous voulons nous en détacher, c'est toujours extrêmement important de savoir ce que les Grecs eux-mêmes, ou c'est les Grecs qui citaient ces fragments, pensaient de ces fragments. Et ici, on a un exemple, vous allez voir, c'est peut-être un peu compliqué, mais c'est relativement simple encore, du type de travail qu'impose la connaissance des philosophes présocratiques. Alors, lisons rapidement le fragment 58. Empédocle dit, et alors, peut-être, au fur et à mesure, je corrigerai un peu la traduction, ou bien je la rendrai plus limpide pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Donc je te dirai encore, il n'est de naissance pour aucun tous mortels. Vous pouvez comprendre simplement, il n'est de naissance pour aucun de l'ensemble des mortels, pour aucun des mortels. Ça suffirait. Il n'est de sens pour aucun des mortels. Euh, il n'est point de fin à la mort funeste. Ce dont je ne suis pas sûr que ça soit une bonne traduction, parce qu'on comprend, point de fin à la mort funeste, ça veut dire que la mort funeste continue toujours et toujours. Alors que, il faut comprendre plutôt, il n'est point de fin consistant dans la mort funeste, c'est-à-dire ce dont on vous parle en grec, c'est un génitif subjectif, et non pas objectif. Donc il n'est point de fin qui consisterait dans la mort funeste, donc c'est la négation de la mort, loin que ce soit la perpétuation de la mort. Mélange seulement, alors je commente un peu, mais il n'y a seulement que mélange et échange de choses qui se mélangent. Et puis, le dernier vers, phusis en grec, qui est traduit ici par naissance, naissance est son nom pour les hommes. Alors, vous avez le texte d'Anaxagore devant vous, encore ? Reprenez-le, essayez, selon ce que vous l'avez distribué la dernière fois. Donc c'est B17. Je vous le relis rapidement. Les Grecs ne conçoivent correctement ni la naissance ni la destruction, car aucune des choses ne naît ni n'est détruite, mais à partir des choses qui sont, il y a combinaison et séparation, de sorte qu'à parler correctement, il devrait appeler naître se combiner et être détruit se séparer. Je crois que même avant toute interprétation détaillée du texte d'Empédocle, la relation entre les deux textes ne peut pas ne pas apparaître. C'est-à-dire qu'il y a au moins deux traits communs. Il y a le fait que Empédocle, comme Anaxagore, oppose le langage, disons, des hommes, le langage commun, à ce qu'on peut appeler un processus réel. Donc, fusis, ou naissance, est simplement le nom que les hommes donnent, et simplement le nom que les hommes donnent, à ce qui existe seulement, c'est-à-dire mélange et échange de mélange, ou échange de choses mélangées. Et cela va avec la double négation de la naissance. Double négation, quelque part, de la naissance et de la mort. Hein, les deux premiers vers, c'est « il n'y a pas de naissance, il n'y a pas de mort ». Ce qu'il y a, c'est simplement des mélanges. Et « naissance » est un nom qui est donné pour les hommes, par les hommes. Donc, si vous voulez, apparemment, il y a une similarité très grande, enfin, même plus qu'apparemment, il y a un écho évident entre les deux textes. Et on peut présupposer, il y a encore des feuilles ou plus ? Et on peut supposer qu'il existe une relation historique entre ces deux textes, c'est-à-dire que l'un ou l'autre texte a été écrit en relation avec l'autre. La question de savoir, c'est qui a écrit le premier ? Est-ce que c'est Empédocle ou Anaxagore ? Est-ce que Empédocle, selon le cas, répète ou critique Anaxagore, ou bien est-ce que c'est Anaxagore qui répète ou critique Empédocle? Ça, c'est très difficile à savoir parce qu'on n'a simplement pas d'informations sur la chronologie relative, ni d'Empédocle et Anaxagore, ni encore moins des écrits d'Empédocle et Anaxagore. Tout ce qu'on peut dire avec certitude, c'est qu'il doit y avoir une relation entre les deux textes, c'est-à-dire qu'un des deux auteurs connaissait l'autre. Il y a d'ailleurs une phrase très énigmatique d'Aristote à propos de la relation d'Anaxagore et Empédocle. Il dit dans Métaphysique Alpha que Anaxagore et Empédocle sont contemporains, mais que l'un est plus archaïque ou par ses doctrines que l'autre. C'est-à-dire que on ne sait pas exactement ce que la phrase signifie et implique, mais la question de la relation entre Anaxagore et Empédocle, comme deux auteurs contemporains qui ont quelque chose à voir avec l'un avec l'autre, mais on ne sait pas exactement dans quelle relation ils se tiennent l'un avec l'autre, est un problème qui remonte à Aristote lui-même, qui déjà avait vu qu'il y avait cette relation étroite entre Anaxagore et Empédocle. Et si vous prenez la doxa d'Aïssus, le chapitre d'Aïssus, vous verrez que cette confrontation, que l'idée d'une confrontation entre Anaxagore et Empédocle est à la base même de son chapitre, parce que son chapitre, il est constitué, son chapitre sur la nature, n'est-ce pas ? Le pseudo-Plutarque a un chapitre qui est intitulé sur la nature, sur le concept de nature, Périphuséos. Eh bien, ce chapitre est constitué de deux doxa, et de uniquement deux doxa, donc on ne rapporte pas la doxa de Platon, ni la doxa de Parmenide, ni la doxa d'Aristote, ni rien sur elle. Il y a deux opinions qui sont retenues par ce manuel, qui sont l'opinion d'Empédocle d'abord et d'Anaxagore ensuite. Alors, la question que je voudrais poser, c'est de savoir, et je voudrais me poser avec vous, c'est de savoir si les deux textes qui ont l'air très proches, hein, qui sont très proches l'un de l'autre, de toute évidence, qui entretiennent une relation l'un avec l'autre, même si on ne peut pas déterminer le sens de cette relation, le sens chronologique de cette relation, je veux dire, la question que je voudrais poser, c'est est-ce que ces deux textes disent ou non la même chose ? Ça, c'est la question précise que je voudrais poser. Et ça m'a paru un bon exemple, disons, vous allez voir, c'est un peu, je crois, difficile à répondre à cette question, ça implique un certain nombre de choses, mais c'est un bon exercice de lecture que je voudrais nous imposer une fois pour voir si ça vous plaît. Parce que si ça vous plaît, on va en faire d'autres. C'est simplement que ce n'est pas possible sur tous les textes, parce que, en général, les constellations sont plus complexes que celle que se trouve par hasard, que l'exemple ne le permet ici. Et ça vous donne, c'est intéressant comme cas, parce que ça vous donnera une idée aussi, comment dire, de la façon dont les présocratiques écrivaient, ce qu'ils faisaient quand ils écrivaient quelque chose, avec quels moyens ils le faisaient. Alors là, une grande partie du problème tourne autour du sens qu'il faut donner au mot fusis. Et alors, il faut que je vous dise une ou deux choses sur le mot fusis. une chose relativement connue, qui est que le mot fusis, que l'on traduit, la traduction la plus commune, est nature, nature d'une chose, nature dans tous les sens, c'est-à-dire la nature telle qu'elle est autour de nous, la nature des choses, c'est-à-dire ce qu'une chose est, et sa nature. Ce mot de nature, donc si vous voulez, qui désigne à la fois la réalité naturelle d'un côté, mais aussi, très rapidement, en particulier chez Platon, l'essence de la chose, la nature d'une chose telle qu'elle est. Ce terme de nature, il a une origine connue et qui est en relation avec disons, la croissance ou la naissance, la racine étymologiquement du fusis, c'est quelque chose qui c'est en relation avec la croissance de la plante. C'est-à-dire, la fusis, c'est la force qui fait émerger une plante, qui fait pousser une plante. Et donc, c'est une étymologie d'ailleurs dont se réclame beaucoup, par exemple, Heidegger. Donc, c'est l'idée d'une émergence. C'est l'émergence de quelque chose. Et donc, fusis peut très bien signifier quelque chose comme naissance. Le verbe fuo, le verbe correspondant à fusis, fuo signifie pousser pour une plante. Et au fond, fusis, c'est l'action de pousser. L'action de pousser et donc l'action d'émerger, de croître, de naître. C'est ça la sémantique originelle. On peut très très bien entendre fusis et traduire fusis au sens d'un autre mot grec qui lui signifie indubitablement naissance, production, qui est genesis. Dans tous les textes qu'on a rencontrés jusqu'à présent, genèse, si vous voulez, au sens de naissance. Generatio, en latin. Le titre de l'ouvrage d'Aristote sur la génération et la corruption, c'est « degenerazione et corruptione », c'est « peri geneseos et phtoras ». Genesis, phtora. Donc, et c'est le mot qui est utilisé, si vous voulez, dans le contexte parménidéen, quand on dit qu'il n'y a pas de naissance, on dit qu'il n'y a pas de genesis. Alors, regardez bien maintenant le texte d'Empédocle et la question est de savoir, il emploie le terme fusis au premier vers et au deuxième et au quatrième vers, et donc la question est de savoir est-ce qu'on doit le traduire par naissance, génération. Et si on le traduit par naissance et génération, on y obtient en apparence quelque chose de très proche du texte d'Anaxagore, où ce que j'ai traduit par naissance et destruction n'est pas fusis, mais précisément genesis. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme raison de penser que fusis, dans le texte d'Empédocle, équivaut à genesis, à génération? L'argument principal, c'est qu'il semble qu'il y ait une opposition entre fusis, ou une complémentarité, si vous voulez, entre fusis au premier vers, naissance, et mort au deuxième vers, et aussi fin, deux mots en grec, pour fin et pour mort. Vous avez telete, qui signifie la fin, et vous avez, définissant la fin, thanatoio, thanatos, la mort. La fin, en quoi consiste la mort? Donc, on a l'impression que Empédocle nie, d'une part, la genèse, et d'autre part, la destruction, et qu'il oppose au couple genèse et destruction, exactement comme Anaxagore, quoi il oppose mélange et échange de mélange. Vous remarquerez en passant que chez Anaxagore, c'est un élément très important, je le dis en passant, mais ce n'est pas en passant, vous remarquerez que chez Anaxagore parle de mélange et, ou plus exactement, d'association et de séparation. Et que dans le texte dans Bédoc, il n'a pas de référence à la séparation, il ne parle que de mélange et échange de mélange. Donc il y a, si vous voulez, dans la symétrie qu'on attend, l'introduction déjà d'une dissymétrie, c'est-à-dire que le couple, au couple de termes, au couple originaire, si vous voulez, qu'il s'agit de remplacer, naissance d'éthéleuthère, naissance mort, naissance fin, ne correspond pas deux termes de remplacement, comme chez Anaxagore, mais curieusement, Bédoc ne parle que d'un terme. À savoir le mélange et échange de mélange.
Mais échange-mélange, ça n'implique pas séparation de mélange.
Oui. Oui, alors il faut dire que ce n'est pas tout à fait de mélange, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, c'est échange de choses mélangées. C'est plutôt échange de choses mélangées, vous verrez, il y a une petite différence. Mais on peut vous suivre, c'est une remarque très importante ce que vous faites, c'est qu'on pourrait essayer de trouver dans échange de mélange ou échange de choses mélangées, l'équivalent de la séparation. À quoi on pourrait remarquer, et sur quoi on pourrait remarquer que, dans le dernier vers en tous les cas, en Bédoc, on parle de nouveau que de physis, que de naissance. Naturellement, vous me direz, on ne sait pas ce qu'il y avait après, évidemment, parce que c'est un fragment, et il aurait pu toujours, toujours émettre l'hypothèse qu'après, en Bédoc, parlait de... Oui,
il y a une autre traduction là, qui dit « et de séparation de ce qui fut mêlé ».
Oui, alors ça c'est pas bon comme... Alors ça c'est très intéressant, vous voyez, parce que dialaxis, c'est tout sauf la séparation, c'est pas la séparation, mais c'est très intéressant qu'il y ait cette traduction, parce que ça montre la prégnance du schéma d'opposition entre association et dissociation. Hein. Dialaxis signifie vraiment échange. Alors on peut en tirer, vous voyez, ça c'est une chose d'en tirer par implication que s'il y a échange de choses séparées, il y a séparation, ce que je n'exclus pas, hein, mais bon, et de traduire par séparation. La traduction n'est certainement pas justifiée. Voilà. Mais alors, ce qu'il y a de très intéressant, moi je ne serais jamais arrivé à. Je n'aurais jamais problématisé la chose comme ça, je jamais pensé qu'il pouvait y avoir un problème, si on ne lisait pas quelque chose d'extraordinaire dans Aristote. Alors, lisons le texte d'Aristote. Et Aristote, dans Delta 4, dans le dictionnaire de la métaphysique, hein, dans ce passage où, dans ce livre où Aristote énumère les différents sens possibles d'une série d'une trentaine de termes, une des entrées, c'est nature. Aristote énumère le sens possible du sens nature. Le premier sens du terme nature, que je n'ai pas reproduit ici, mais que vous pourrez contrôôler, c'est précisément le terme de... C'est précisément le sens de genèse, celui auquel je faisais allusion. La nature, c'est ce qui devient, ce qui pousse, ce qui croît. Et Aristote dit ensuite, dans un autre sens, nature se dit de la substance des choses naturelles. De la substance des choses naturelles. C'est-à-dire, je commente, de la substance des choses naturelles, c'est-à-dire de quelque chose de relativement proche de l'essence. Le mot, de toute façon, est le même chez Aristote, c'est ousia. Ou pourrait d'ailleurs se demander même s'il ne faudrait pas traduire ici ou s'il y a par essence plutôt que par substance, mais peu importe, on peut y arriver avec substance aussi. L'important, c'est que Aristote dit la substance des choses naturelles, c'est-à-dire la substance, je traduis, ce qui fait qu'une chose naturelle est ce qu'elle est, c'est sa nature. Très proche de l'idée que très proche du sens du terme nature, qui veut dire qui signifie la nature des choses. Donc Aristote dit, dans un autre sens, nature se dit de la substance des choses naturelles. Telle est l'acception que lui donnent ceux qui disent que la nature est la composition primitive, ou comme Empédocle, que, et puis, citation de nos vers. Aucun des êtres n'a une nature, alors pas une essence là, mais aucun des êtres n'a une nature, mais seulement mélange et séparation de mélange, il y a. Vous voyez que Aristote omet le membre de vers consacré à la mort et à la fin. Et la nature n'est qu'un nom donné par les hommes. Aussi, disons-nous, de tout ce qui est naturel, que de tout ce qui naturellement est ou devient, bien qu'il possède déjà en soi le principe naturel du devenir ou de l'être, qu'il n'a pas encore sa nature, ni n'a la forme, et ni n'a de forme et de configuration. Configuration étant, traduisant morphé, forme et idos. Donc on voit bien que la nature est ici, la nature, pour Aristote, formelle, c'est ce qui fait qu'une chose est ce qu'elle est, c'est sa forme. D'accord ? Et alors, voilà. La plupart des interprètes disent Aristote se trompe. Pour une raison X, Aristote se trompe. Aristote cite des vers d'Empédocle pour illustrer un sens du mot nature qui précisément n'est pas celui dans lequel Empédocle emploie le mot de nature. Il faut comprendre nature chez Empédocle comme naissance, genèse, et Aristote a simplement tort de penser que Empédocle a voulu parler de la nature des choses. Alors, je me suis demandé, est-ce que c'est vrai qu'Aristote a tort ? Il peut arriver à Aristote d'avoir tort. Hein. Aristote cite souvent, de manière biaisée, de manière qui arrange son propos. Ça n'est pas un interprète d'une fidélité nécessairement très grande. Il y a un grand débat autour de la question de savoir que vaut Aristote en tant qu'interprète des pensées qu'il cite. Il y a un débat extrêmement intéressant. Et il faut se décider au coup par coup, pour ainsi dire, pour savoir si Aristote déforme ou ne déforme pas. Et à quel niveau il déforme ou ne déforme pas. Ici, c'est un peu bizarre quand même, parce que, autant dans le courant d'une argumentation, on peut comprendre pourquoi il essaye de tirer des déclarations d'autres philosophes dans un sens particulier, autant il paraît un peu bizarre que, dans un dictionnaire de type de ceux qui l'abordent dans Delta, il procède à une lecture aussi forcée. Voilà. Alors, la question est de savoir, c'est la question que j'aimerais discuter avec vous, peut-être j'ai tort, hein, peut-être j'ai raison, c'est vraiment une tentative. La question est de savoir, est-ce qu'Aristote pourrait ne pas avoir raison d'interpréter comme il le fait l'occurrence du mot fusis chez Empédocle. par anticipation, un des intérêts de cette hypothèse, outre le fait qu'elle donne raison à Aristote, qui est toujours sympathique, mais un des intérêts de cette hypothèse est évidemment que, du coup, s'introduit une distance entre ce que dit Anaxagore et ce que dit Empédocle. Parce que si Empédocle emploie le mot de fusis dans un sens qui n'est pas celui de Genesis, qu'il emploie le terme au sens de nature des choses et non pas dans le sens de naissance des choses, alors on peut considérer que il est difficile de savoir d'où vient la critique, dans quel sens s'exerce la critique. Est-ce que c'est Anaxagore qui critique Empédocle, ou est-ce que c'est Empédocle qui critique Anaxagore? Mais en tous les cas, on peut dire qu'il existe une relation critique entre deux fragments qui sont configurés de telle façon qu'on ne peut pas voir dans l'un au moins la citation de l'autre. Vous voyez, c'est ça ce que je voulais vous dire sur la manière d'écrire des présocratiques, c'est-à-dire qu'ils écrivent en montrant qu'ils se réfèrent à un texte, ils ne disent jamais « Anaxagore dit que », ça c'est vulgaire. Et ça ne s'introduira très tard que dans la philosophie, relativement tard, Platon, peut-être avec Démocrite déjà, Héraclite et à quelques exemples qu'on verra en particulier de référence à des noms communs, mais en général les philosophes ne se positionnent pas par rapport à d'autres philosophes, explicitement. Ils ne nomment pas. On ne discute pas avec M. X, comme dans les revues philosophiques que vous lisez. Ou même Kant ou Hegel. Non, on ne fait pas ça. On écrit un truc qui est une œuvre complète, et dans cette œuvre, il y a des références implicites à toute la tradition qui est qu'on s'est approprié et qui est présente sous la forme de citations implicites. Ces citations implicites consistant dans la reprise d'expression, dans la reprise de formules, mais aussi du même coup dans la reformulation et dans l'écart par rapport à des formules reconnaissables. Vous voyez, pour nous, c'est difficile, parce que naturellement, nous avons perdu les trois quarts de la littérature. Donc on ne sait même pas, si c'est ça le mode d'écriture, c'est extrêmement frustrant. L'état des sources, non seulement parce que nous n'avons pas tout, mais parce que nous n'avons pas non plus souvent les possibilités de comprendre pourquoi un auteur s'est exprimé de telle façon, s'il est vrai qu'il ne s'est exprimé de telle façon que par rapport à des textes que nous pouvons avoir, c'est le cas ici je pense, ou que nous pouvons très bien avoir perdu. C'est complètement contingent. Et là, on ne peut être que triste de ce qui nous reste, du peu qui nous reste. Voilà. Alors, maintenant, essayons, c'est l'hypothèse de lecture que je vous propose, essayons de voir si on peut lire ce fragment d'Empédocle en pensant qu'il parle non pas de naissance, mais de nature des choses. Alors, la première chose dont je voudrais... Oui ? Oui, exactement. Exactement. Voilà, c'est dans grande partie ça. Alors, prenons le... prenons les deux premiers vers d'abord. C'est vraiment ce que vous dites est exactement ça, mais voyez, on peut le pointer dans le texte. Prenons le premier élément. Il ne donne naissance pour aucun des êtres mortels. Alors, disons pour l'instant, il naît de fusis, pour ne pas préjuger la traduction. Il naît de fusis, ou de la compréhension, il naît de fusis pour aucun être mortel. Et Empédocle ajoute, il n'existe non plus, je paraphrase, il n'existe non plus point de fin consistant dans, marqué par, la mort. La question que je pose, c'est est-ce qu'il est sûr que la dénégation de la mort concerne les mêmes êtres que ceux qui sont concernés par la dénégation de la fusis. Autrement dit, est-ce que Empédocle est en train de dire il n'existe point de mort pour les êtres mortels? Ben non. Ben voilà. Vous voyez, ça serait bizarre de dire il n'y a pas de fusis pour les êtres mortels, mais il n'y a pas non plus de mort pour les êtres mortels, ça serait bizarre, parce que... Alors, c'est une ligne d'interprétation qu'on pourrait défendre, on pourrait dire ils sont à la fois immortels et mortels, peut-être. Mais en tout cas, il faut au moins se poser la question de savoir comment peut-on nier la mort d'êtres qui sont définis comme mortels. Ça semble être quand même une contradiction dans les termes. Et peut-être une contradiction trop forte pour pouvoir être acceptée. Vous me suivez jusque-là ? Donc, dans ce cas-là, ça signifie que... Oui ?
Justement, la contradiction pourrait être comprise comme une voie métaphorique, l'expression de la mortalité décomposée et de l'immortalité des éléments qui composent. Par exemple, telle substance individuelle
est immortelle. Oui, mais ce que je veux dire par là, si vous voulez, sur le plan purement sympathique, je crois que nous disons la même chose, c'est-à-dire que, je crois que c'est métaphorique et la bonne destination, mais je crois que nous disons la même chose, c'est-à-dire que ce qui ne meurt pas, n'est pas la même chose que ce dont il est dit qu'il n'y a pas de fusis. C'est-à-dire, il n'y a pas de fusis des choses mortelles, mais il n'y a pas de mort, non pas des choses mortelles. Il n'y a pas de mort, dans votre proposition, ou dans la vôtre, je crois aussi, mais il n'existe pas de mort, des choses qui sont les composants de ces choses mortelles. C'est ça.
Il y en a un, c'est peut-être justement pour insister sur une espèce de théorie double possibilité
oui. Bien sûr. Mais ce que vous présentez comme une évidence, comme une chose relativement simple, c'est quelque chose qui n'a jamais été vu par aucun interprète d'Empédocle. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que tout le monde, ce que vous dites, c'est il y a une, ce que je dis, ce que vous dites aussi d'une autre façon, c'est il y a une dissymétrie entre ces deux vers, qui fait que les choses qui sont concernées par la notion de fusis et les choses qui sont concernées par la notion de telle et telle ne sont pas les mêmes choses. Alors vous dites métaphorique, c'est pas métaphorique, c'est-à-dire que c'est un moyen, il y a une dissymétrie qui renvoie à cette différence, disons, de statut ontologique. D'accord ? Si ça c'est vrai, on ne peut pas lire ce fragment comme s'il y avait, comme si Empédocle parlait symétriquement et au même niveau, pour ainsi dire, de la fusis de X et de la mort de X. Il parle de la fusis de X et de la mort de Y. D'accord ? Il parle de deux niveaux de réalité différentes. Et du coup, la tentation de construire une symétrie, un couple complémentaire entre mort et naissance, qui a conduit à la traduction de fusis par naissance, du coup, cette tentation diminue. Parce que, étant donné qu'il y a une dissymétrie, disons, pour le dire très simplement, des compléments d'objets, c'est la fusis de X, mais la mort de Y, eh bien, la dissymétrie qui est caractéristique du fragment d'Anaxagore, où il s'agit en effet de la réunion et de la dissociation des mêmes choses, eh bien, cette dissymétrie disparaît. Et du coup, alors, il faut dire aussi que, pour être tout à fait juste, que ça n'est pas un hasard si Aristote ne cite pas ce bout de phrase sur la mort. Vous voyez, quand il cite le fragment d'Empédocle, il évite de citer ou il ne cite pas ce bout qui pourrait contredire sa propre affirmation selon lequel la fusis a ici pour sens non pas la naissance, mais la nature à proprement parler. Il se facilite d'une certaine manière la tâche. Il se facilite la tâche en faisant disparaître, encore une fois, le terme qui pourrait faire penser, qui a fait penser, de fait, à une dissymétrie, à une symétrie entre naissance et mort. Alors, avançons un tout petit peu et imaginons que, en effet, Empédocle a parlé de fusis au sens maintenant de nature, et non pas au sens de naissance. Qu'est-ce qu'il dirait ? Il dirait « Aucune chose mortelle n'a une nature. » Aucune chose mortelle n'a une nature. Et vous vous souvenez ce que je vous disais l'autre jour, lors de la dernière séance, sur le fait que l'individu particulier conçu en tant que mélange d'éléments plus fondamentaux d'un point de vue ontologique, que l'individu particulier n'avait qu'une existence ontologique fantomatique dans la pensée présocratique. C'est-à-dire qu'on ne sait pas quelle est la réalité ontologique d'un composé. Plus exactement, la tendance est de nier la réalité ontologique des composés. C'est une expérience très traumatisante, puisque ni vous, ni moi, ni cette table, ni rien de ce que nous connaissons normalement n'est. Et au fond, ce que Empédocle affirmerait ici, en toutes lettres, il dirait aucune chose mortelle n'a, non pas de naissance, donc, mais de nature. Pourquoi ? Parce que il y a seulement mélange et échange de mélange. Alors pourquoi ? Je reviens un instant sur cette suggestion que vous aviez, que dans l'échange de mélange, implique la séparation. Comment ? Désagrégation. La désagrégation. Thank you. Alors, comment dire? Il est vrai que si vous avez un mélange, vous avez un autre mélange, et ces mélanges échangent leurs composants. Si, par exemple, je meurs et je me transforme en arbre. Il est vrai, je vous reconnais entièrement le droit de dire que ceci implique suffisamment l'idée de la séparation pour qu'on puisse y voir le représentant de la mort de quelque chose qui existait auparavant. Et c'est certainement un élément, un autre élément que je n'avais pas suffisamment vu, comme le mot, comme l'occurrence du mot de mort, qui a pesé sur l'interprétation de ce fragment. C'est-à-dire qui a déterminé à lire dans ce fragment l'équivalent de la position d'Anaxagore. En même temps, je pense que imaginez, par hypothèse, simplement, que ce qui intéresse Empédocle, c'est précisément de nier que les choses aient une identité qui leur soit propre. Si les choses, si ce qu'il veut dire, c'est que aucune des choses mortelles, aucune des choses mortelles ne possède une nature à proprement parler. Et que l'idée qui soit derrière, c'est que seul possède une nature les composants de ces choses. C'est-à-dire, les composants de ces choses, ce sont par apposition au mélange, c'est pour ça que la traduction par mélange n'est pas bonne ici, ce sont les choses mélangées. Les choses qui se mélangent, elles ont une nature. Mais les composés, eux, n'ont pas de nature. D'accord ? Alors, on comprend assez bien, précisément, que Empédocle est substitué au terme, en admettant que ça aille dans ce sens, que Anaxagore est substitué au terme anaxagoréen de dissociation, qui représente le moment de la disparition de quelque chose qui existe dans son identité propre, d'une certaine manière. On comprend très bien qu'il est substitué à ce terme de dissociation le terme d'échange, parce que ce qui se passe, c'est un processus constant de mélange et d'échange des choses mélangées. C'est-à-dire, cela renvoie au niveau fondamental à partir duquel les constituants donnent lieu à ces composés transitoires qui sont, par hypothèse, dépourvus de nature. Et ça, je pense que je crois que c'est que Aristote, du coup, a bien vu ce point, et que c'est ce qu'il retient dans Métaphysique Delta. Dans ce cas-là, quand Empédocle dit Fusis est son nom pour les hommes, Fusis est son nom pour les hommes, ce qu'il dénonce, ça n'est pas l'idée de naissance ni l'idée de destruction. n'est-ce pas ? Ce n'est pas l'idée de naissance et l'idée de destruction qu'il conteste, et dont il dit que les hommes l'appellent ainsi. Ce qu'il dénonce, c'est l'emploi illégitime du terme physis, du terme de nature, pour précisément les choses mortelles. Voilà, alors si vous... encore deux petites remarques. Si, on ne va pas le faire ici maintenant, mais vous le ferez pour vous-même, chez vous, si vous lisez le texte de Plutarque, extrait d'un traité anti-épicurien qui s'appelle Contre Colotès. Et si vous lisez le traité De MXG, vous verrez que vous avez deux représentants de l'interprétation opposée à celle d'Aristote. C'est-à-dire que et Plutarque et l'auteur du DMXG considère que Aristote, que Empédocle parle ici de la génération et donc de la corruption et non pas de la nature. Le passage de Plutarque est particulièrement intéressant. Et je vous en dis simplement un mot pour vous guider dans la lecture. Bon, Colotès est un épicurien de la première génération, c'est un disciple très proche d'Épicure, presque contemporain, un tout petit peu plus jeune que lui. Et il avait écrit un traité qu'on a perdu, qui soutenait la thèse selon laquelle il était impossible de vivre si l'on suivait la doctrine des philosophes autres qu'Épicure, c'est-à-dire qui dénonçaient les principes philosophiques des écoles autres que celles d'Épicure, en adoptant le critère de la possibilité qu'il vous laisse de vivre. Et son traité s'intitulait « Qu'il est impossible de vivre selon les principes des autres philosophes ». Il est impossible de vivre selon les théories des autres philosophes. Et ce traité est perdu, on ne le connaît que par la critique qu'en fait Plutarque. Plutarque consacre tout un traité à la réfutation du traité de Colotès. Et d'après ce qu'on peut tirer de Plutarque, eh bien, on voit que Colotès s'était attaqué à Démocrite, à Parménide, à Empédocle, à Socrate, à Mélissus, à Platon, à quelqu'un qui s'appelle Stilpon, qui doit être un grand inconnu pour vous, qui est un philosophe pas très connu de toute façon, aux Cyrénaïques, et finalement aux fondateurs de la Nouvelle Académie, c'est-à-dire aux platoniciens contemporains d'Épicure, qui s'appelle Arthésilas. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'on peut montrer que, pour la question qui nous occupe, c'est un traité passionnant sur beaucoup de plans, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on peut montrer que Colotès, l'épicurien, s'appuyait sur l'interprétation d'Aristote du fragment d'Empédocle, et que plus tard, pour réfuter Colotès, s'appuie sur l'interprétation non-aristotélicienne du fragment, du même fragment d'Empédocle. On peut voir ça quand Plutarque, en 1012 D, je pense que le passage est reproduit, en 1012D. Je voulais donner dans la traduction anglaise parce que simplement il n'existe pas encore de traduction française de ces traités, ou du moins pas qui m'ait été accessible. Plutarque dit, rapportant l'argument de Colotès, Colotès aurait dit, à quoi bon nous épuiser nous-mêmes en prenant soin de nous-mêmes? À quoi bon nous épuiser nous-mêmes en prenant soin de nous-mêmes? À quoi bon faire attention à nous? En désirant certains objets et en en évitant d'autres objets, c'est-à-dire en choisissant la manière dont nous entendons vivre par nos choix et par nos refus, à quoi bon nous épuiser à faire cela? Car nous, ne sommes-nous ni ne vivons-nous en ayant affaire à d'autres qui seraient. Car nous, ne sommes-nous, nous ne sommes pas, et nous ne vivons pas non plus en ayant affaire à d'autres individus qui sont. N'est-ce pas ? Comment peut-on faire attention à soi si, je traduis, nous n'avons pas de nature propre ? Et Colotès invoquait le fragment d'Empédocle, ce fragment, qui dénie la nature des choses mortelles, donc prenant le sens de fusil, le sens de nature, qui dénie la nature des choses mortelles, pour en tirer un argument contre Empédocle. Il est absolument absurde de vouloir faire attention à quelque chose qui n'a pas de substance, à quelque chose qui n'a pas de nature. Il n'y a pas de nature suffisamment, nous en tant qu'individus, n'ayant pas de nature, c'est ça l'argument de Colotès, selon Empédocle, eh bien, nous ne pouvons faire attention à nous-mêmes, puisque le nous-mêmes n'est rien. N'est pas une identité à laquelle on puisse faire attention, dont on puisse prendre soin. Vous voyez l'argument, ça ne vous paraît pas très convaincant, mais c'est radical, mais c'est quand même assez fort. Évidemment, c'est assez fort parce que ça pose la question de notre identité personnelle. La position épicurienne est très intéressante parce qu'elle revendique l'identité personnelle, donc l'existence d'une nature, comme condition de possibilité du bien vivre. Nous ne pouvons bien vivre que s'il y a quelque chose qui est l'objet du soin dont on l'entoure. À quoi Plutarque répondait contre Colotès, qu'il avait mal lu le fragment d'Empédocle, parce que Empédocle ne parlait pas de la nature des choses mortelles, et donc ne niait pas du tout la nature de l'individu, l'existence d'une nature pour l'individu, mais que Empédocle avait pris, selon Plutarque, le mot de fusis dans le sens de naissance, de genesis. Donc, il démontait la critique que l'épicurien Colotès avait adressé à Empédocle en lui reprochant d'avoir mal lu le fragment d'Empédocle sur lequel Colotès s'appuyait pour le critiquer. Oui. Donc, je vous donne cette indication pour vous dire que c'est assez intéressant parce que ces problèmes d'exégèse que nous avons agités, que j'ai agités un peu devant vous, comme ça, et qui peuvent paraître philologique, un peu technique, sont en vérité, on a suffisamment d'indications pour savoir qu'ils faisaient partie d'un argumentaire, disons philosophique, extrêmement développé, dont nous avons préservé par hasard un peu un fragment grâce à ce traité anti-épicurien de Plutarque. Donc on peut s'imaginer qu'il touchait naturellement beaucoup d'autres textes, mais ici on peut saisir, si vous voulez, la manière dont les philosophes anciens se battait et utilisait à des fins naturellement philosophiques tout à fait différentes des fragments comme un fragment comme celui d'Empédocle dont je vous ai parlé. Quelqu'un voulait prendre la parole, non ? Oui.
Quand il parle de nature, les épicuriens parlaient de dépendre ma nature, votre nature, est-ce que c'est nature dans le sens, presque dans le sens du débat des universaux, du nominalisme, ou est-ce que c'est nature, donc dans le sens de nature humaine partagée, ou nature dans le sens de je suis une substance concrète qui forme un tout ?
Je suis une substance concrète qui forme un tout. Et alors, ce qui est intéressant, je ne vais pas entrer là-dedans parce que ça nous entraînerait dans l'Épicure, dans le Thomisme, dans Plutarque, etc. Mais quand même, on peut ajouter ceci, qui est que Plutarque, dans la suite, dit en vérité, il dit à l'épicurien Colotès, en vérité, vous êtes bien pire qu'Empédocle, vous les épicuriens, vous êtes bien pire qu'Empédocle, parce que Empédocle, au moins, dans les agrégats d'Empédocle, il y a quelque chose comme une force unifiante, qui est celle de l'amour, qui tient le composé ensemble et qui lui donne précisément sa consistance. Alors que vous, épicuriens, vous avez des atomes qui se baladent dans tous les sens et on ne sait pas exactement quelle est la nature de l'unité que ces agrégats arrivent à constituer. Donc, il y a un deuxième temps de l'argumentation de Plutarque contre Colotès qui, en vérité, lui dit que ça, que selon la propre, au fond, ce que Plutarque dit à Colotès, c'est que selon la doctrine épicurienne elle-même, on ne peut pas non plus vivre parce qu'il n'y a pas plus de substantialité au composé atomique des épicuriens qu'il n'y a de substantialité selon Colotès dans les composés empédocliens. Donc c'est de la polémique philosophique, mais c'est de la polémique philosophique qui illustre bien le type de débat qu'il y avait dans les écoles les anciennes. Il y avait encore une remarque, non, c'est pas quoi ? Voilà. Alors, il y aurait encore eu des choses à ajouter sur... Plutarque, sur le texte du pseudo-Plutarque, là, sur la confrontation d'Empédocle et Anaxagore, mais je vais laisser ça de côté, je crois que vous avez eu il y en a assez là, d'association et de dissociation pour aujourd'hui. Je voudrais vous donner deux indications avant qu'on se sépare, deux, trois indications sur la manière dont on pourrait continuer. Je voudrais un tout petit peu continuer sur la relation entre, disons, puisque nous avons vu ces deux textes d'Anaxagore et d'Empédocle qui concernent la relation entre le langage et l'ontologie. Hein. Alors, je voudrais un tout petit peu continuer en revenant la prochaine fois sur le statut des noms chez Parménide. Donc on va revenir encore avant d'aller vers les atomistes. On va revenir, je voudrais qu'on revienne sur ces vers du fragment 8 où Parménide parle des noms, de l'instauration des noms, pour nous demander, à la lumière de ce qu'on a vu chez Empédocle et Anaxagore, ce qui se passe, disons, entre Parménide et Anaxagore et Empédocle. Quelle est la, au fond, est-ce qu'on peut localiser, voilà, question pour la veillée de Noël, est-ce qu'on peut assigner une position distincte à Parménide, à Empédocle et à Anaxagore concernant la légitimité de l'emploi des noms, langage. Bon, ça serait une première chose. La deuxième chose, c'est donc le texte du dégénérationné et productionné que j'avais commencé à vous expliquer la dernière fois, et là je ne vais pas nous n'avons pas eu le temps de continuer aujourd'hui. Donc ça, on fera vraiment la prochaine fois. Si vous y avez réfléchi pour cette séance, essayez de ne pas perdre ce que vous avez pensé. Et je voudrais en particulier qu'on revienne sur le fragment, le dernier fragment, parce que là j'ai il m'est apparu quelque chose d'assez intéressant. Le dernier fragment qui vient du même Plutarque contre Colotès, que vous avez cité, que je vous ai cité dans les Empires la dernière fois, et qui, je vous le lis simplement, qui dit: le quelque chose n'est pas plus que le rien. Il appelle chose d'en le corps et rien méden le vide, dans l'idée que celui-ci aussi possède une certaine nature et une existence qui lui est propre. Et alors, je vous donne une seule indication pour guider votre réflexion, c'est que c'est un jeu de mots sur le grec, pour ainsi dire. Et il semble, il ne soit pas absolument sûr, mais il semble que Démocrite, ou Leucippe plus exactement, invente un mot d'en, que je traduis par chose ici, à partir du mot qui signifie rien en grec, qui est mais d'en, qui est composé de la négation et de den. Mais c'est la négation et den c'est quelque chose d'autre. Mais den signifie rien. Et Démocrite dit: le rien, c'est le yin plus la négation. Si on voulait le traduire en français, c'est, imaginez-vous le mot rien. Alors, ça signifie non, c'est la négation en grec, et le quelque chose est la négation du rien. Voilà. Le quelque chose est la négation du rien. Et ça, c'est une création sémantique. Ça a l'équivalent au Moyen-Âge, d'ailleurs, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, chez Maître Eckhart, parce que Maître Eckhart, il invente un truc qui s'appelle le X, qui est le contraire de Nict. Il ne connaissait pas Démocrite, hein, mais c'est extrêmement frappant de voir que c'est la même opération, et c'est une opération sur le langage, et je voudrais qu'on essaye de réfléchir sur le sens possible de cette opération linguistique pour désigner l'être. Hein, l'être comme négation par un mot qui n'a plus rien à voir avec l'ontologie, pour ainsi dire, l'invention d'un mot pour désigner l'être à partir de, de l'analyse du terme qui signifie le rien. Vous voyez ? Voilà. Donc je vous souhaite de bonnes vacances. Et puis on se retrouve donc pour le 7, c'est le 7 janvier, non ? Pour cette séance qui sera la dernière séance, disons, d'approche. Et puis ensuite on rentrera dans ces trois auteurs que je vous ai cités la dernière fois, de manière plus approfondie.